Bonjour à toutes et aux quelques tous. Bon, je suis ravi d'être avec vous là, mais je le redirai. Vous avez vu que je ne suis pas José Andigo. Donc je suis déjà intervenu quelques fois donc, dans le forum, mais je suis un ancien président de l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé, principalement des départements, mais pas que. Donc, je suis la 11e intervention, j'ai failli être la 12e. Donc, remplacer Josiane Bigot, c'est d'abord déjà difficile. C'est en fin de forum, c'est après le repas. Et en fait, vous avez déjà engrangé moult réflexions portées par de brillantes personnalités. La présidente du département, Chénèse Kirouni, vous a parlé de la protection de l'enfance comme d'un investissement social et de l'accueil des partenaires dans cet hôtel du département, la question de la qualité d'accueil. Votre conseil d'administration a eu une bonne idée de se faire accueillir une année sur deux dans un département, parce que la qualité de l'accueil, c'est vraiment dans l'ADN des départements. Le président du Haut Conseil du Travail Social, Mathieu Klein, attend vos contributions au livre vert, donc il faut que vous mettiez à bosser. Et donc, je pense que c'est important, y compris vous pourrez faire quelques événements à cette occasion-là. Et pour l'occasion, l'éloge de la lenteur qu'appelle de ses voeux Daniel Marcelli ne peut être de mise, pas plus que. Donc, ça ne peut pas être de mise, donc là, il va falloir aller un peu plus vite. Donc. Parce que, en fait, Anne Reynaud vous a demandé de former un socle commun avec partir des besoins fondamentaux. Et c'est assez intéressant de les avoir vus se mettre en musique par plusieurs approches au cours de ce forum. Et c'est certainement essentiel de partir des besoins des personnes. Car pour mieux échanger, donc c'est certain qu'il vaut mieux avoir un socle commun pour pouvoir arriver à se comprendre, ne serait-ce qu'entre professionnels. Je pense que ces formations communes, intermétiers, interinstitutions, sont essentielles. On n'arrête pas de le dire depuis des années. Elles peinent parfois à se mettre en œuvre, de la même façon que des formations systématiques, justement dans une approche et une vision systémique, parce que la protection de l'enfance est un système, me semble certainement être essentielle, surtout notamment quand on veut travailler sur une approche des compétences des personnes. Grâce à Bernard Valéry, vous avez les clés du processus du développement du pouvoir d'agir. Donc, vous ne pouvez plus dire que vous ne pouvez pas agir. Et donc, ainsi, votre sensibilité aux droits de l'enfant n'en sera que accrue, mais également, votre performance va être accrue grâce à votre pouvoir d'agir. Je pense que c'est essentiel de garder, dans un monde en plus qui est très trouble, très troublé, cette sensation, cette croyance qu'on a toujours, quel que soit le contexte, le pouvoir d'agir. Et c'est important pour nous et certainement pour les enfants et les familles. Adrien Taquet a évoqué de façon précise l'accompagnement que vous réalisez au quotidien. Alors, c'était vraiment précis. Hein. Et va défendre le développement de votre action au Sénat. Donc, je trouve que c'est quelque chose aussi d'important, ce travail de reconnaissance. C'est une intervention de qualité que vous pourrez réutiliser pour expliquer dans un langage accessible ce que c'est que votre travail. Le travail, quel beau travail collectif, ce qui a été présenté par Jacques Nille, pour développer une culture de l'éthique et l'harmonisation des pratiques de votre métier. Et cela rejoint la présentation par Marie-France Bernard de l'accompagnement des familles par les travailleuses familiales, je n'ai pas envie de dire TISF, ça m'énerve. Vous savez que c'est un des problèmes des 20 dernières années ou 30 dernières années qu'on a technicisé tout. Les familles d'accueil de l'aide sociale à l'enfance dont ont été appelées assistants familiaux, mais elles ont failli être appelées assistants techniques des familles. Enfin, c'est extrêmement dangereux, cette technicisation. La protection de l'enfance doit être politique. Donc voilà, donc cette travail familial, donc à travers l'approche globale de la cellule familiale, et c'est ça qui est à retenir, et les petites choses du quotidien. Ça a été dit plusieurs fois, les petites choses du quotidien. Et Catherine Delcroix nous a rappelé qu'il ne fallait pas assimiler les situations et les personnes. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Hein, donc, d'être, on est en situation de monoparentalité, on est en situation de. Ça vaut peut-être parfois la peine de dire deux mots au lieu d'en dire un seul. Donc, c'est quelque chose d'important et que c'est essentiel si on ne veut pas discréditer. Et le discrédit, elle nous l'a dit, empêche d'agir. Voilà. Donc, on va excuser l'éducation parce que je vais entendre ça après. Donc, autant de propositions pertinentes pour votre travail au quotidien. Alors, mon intervention relève un peu, quelque peu du défi quand on sait que la crise, parallèlement, produit de la fatigue. Donc, je vais essayer de ne pas vous fatiguer. Mais ce n'est pas gagné. Ceci dit, je le redis, je suis ravi d'être depuis hier avec vous et c'est une nouvelle fois avec vous. J'aime beaucoup être avec vous. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué. Donc, je vais vous proposer quelques réflexions à débattre, parce qu'il faut toujours les débattre, les réflexions, et surtout, il ne faut jamais prendre pour argent comptant. Et ainsi, vous parler des engagements d'une autre association professionnelle, qui est celle de l'ANDAS, ce qui me permet, parce que j'ai travaillé un peu sur quelques copier-coller, parce que je crois beaucoup qu'il faut faire des contributions, parce qu'elles sont issues d'un débat collectif, et comme moi je parle, ça me permet de parler pas que de ma place, mais pas que de ma voix. Et ça, c'est quelque chose d'important si on veut mettre de la durabilité dans ce qu'on fait. Et dans, voilà, il ne faut pas avoir peur du collectif, voilà, dit autrement. Voilà. Et donc, c'est assez drôle, les synchronicités, j'aime bien, parce qu'elle a l'ANDAS a un nouveau conseil d'administration très rajeuni depuis lundi dernier. On est dans un mouvement très fort de départ à la retraite ou de mobilité dans les dirigeants des solidarités des départements. Donc très rajeuni. Alors c'est surprenant parce que ici c'est une présidente qui laisse la place à un jeune président et à l'ANDA c'est un président qui prenait sa retraite, Jean-Paul Raymond, qui était le directeur de social de Paris, qui laisse sa place à une jeune présidente, Anne Troendec, de Savoie. Donc on fait la même chose mais on inverse. Et notre association, elle est très paritaire. Ça fait l'objet de quelques débats parce que maintenant, il y a un peu plus de femmes que d'hommes dans notre conseil d'administration, ce qui est plutôt une bonne chose. Enfin, je me suis battu pour. Voilà. Il convient juste dans ces moments-là d'être attentif à accompagner les transitions. Hein, je crois beaucoup au travail sur les transmissions et les transitions et conserver quelques rituels. Donc, il faut garder des rituels. Les organisations, elles ont besoin de rituels pour pouvoir bien fonctionner. Et pour ne pas avoir des attachements désorganisés à l'association. Il faut faire attention qu'on n'ait pas des attachements désorganisés à l'association. Pour vous simplifier donc vos prises éventuelles de notes, vous pourrez trouver toutes les contributions que je cite, pour ne pas citer beaucoup, mais sur le site de l'ANDAS, c'est andas.fr. Voilà, c'est nouveau, on n'est pas très doué pour développer notre propre communication. Notre association, son métier, c'est développer le métier, c'est faire du compagnonnage et c'est essentiellement produire de la contribution au niveau plutôt des politiques publiques. Donc on se situe. Michel Billet, dans son texte de présentation du programme, nous parlait d'un quotidien synonyme et de ordinaire, répétitif, la routine, morne et sans relief. Et en opposition, pour les enfants accompagnés, le quotidien était plutôt jalonné de difficultés et la crise sanitaire a fait du quotidien un événement. Excuse-moi, mais je fais un peu de synthétique, hein, Michel. Donc ce sont des points de vue que je partage. Et je vais essayer de vous. Je vais essayer de proposer un regard complémentaire. Voilà, donc c'est une belle idée, en fait, que vous avez eue, que la vie quotidienne des enfants accompagnés, et que ce soit le thème de votre forum. À l'ANDAS, depuis 2018, nous essayons de développer l'idée que le quotidien est stratégique. Et notre plaidoyer porte sur la création d'un service public, territorial bien sûr, de la vie quotidienne. Et vous y auriez toute votre place. Donc le quotidien est stratégique parce que malgré, je vais prendre trois exemples, des décennies d'efforts et des budgets sociaux conséquents, 9 millions de personnes, dont 20% d'enfants de notre pays, vivent dans des familles sous le seuil de pauvreté. Ce seul chiffre devrait nous alerter que tout ce qui concerne la vie quotidienne des enfants et des familles est stratégique et devrait être considéré comme tel dans la construction des politiques publiques. Mais ce chiffre déjà impressionnant pour une société moderne et riche cache des réalités bien plus préoccupantes. Le taux de pauvreté atteint 40% dans les familles où il y a 4 enfants, 57% quand il y a 5 enfants ou plus, ou dans les familles monoparentales. Et en fait, j'ai regardé les chiffres de l'étude qui a été faite par rapport au public que vous rencontrez, et c'est typiquement le public que vous rencontrez. Cette seule information exigerait une politique de prévention et donc de protection plus priorisée, des moyens plus concentrés en appui et soutien des familles nombreuses et des familles monoparentales. Autre sujet de quotidien, le surpoids. La question du surpoids à 5-6 ans est de 16% chez les enfants d'ouvriers et 7% chez les enfants de cadre. Et cela sera encore plus marqué à 15 ans pour l'obésité. Ce n'est pas vrai pour le surpoids. On est égaux sur le surpoids à 15 ans. Les enfants d'ouvriers qui étaient obèses à 6 ans le sont encore à 40% à 15 ans, alors qu'il s'est réduit à 19% pour les enfants de cadre. Le quotidien du logement. Troisième point, troisième exemple, on peut ajouter à cela les 5 millions de Français qui vivent dans des passoires thermiques pour compléter un triptyque des inégalités de la vie quotidienne. Le logement est en France le deuxième émetteur de gaz à effet de serre. Cela donne tout son sens au thème de la Journée mondiale du travail social du 15 mars 2022, co-construire un monde éco-social, ne laisser personne de côté. Une vraie opportunité pour le Carrefour des délégués aux prestations familiales de proposer une initiative nationale sur ces thèmes en mars 2022. Ça, c'est pour toi, président de Goulot. D'autant qu'à la même période, le Haut Conseil du Travail Social, ça, vous le savez, Mathieu Klein vous l'a dit, donnera un premier diagnostic, le livre vert. Donc ça, je l'ai dit à quelques-uns, j'ai appris que le livre vert, il y a des codes, c'est du diagnostic. Après, il y aura un livre blanc qui est du plan d'action. Bon, enfin... Mais avec le problème, c'est que le plan blanc dans les hôpitaux, c'est quand c'est le bordel. Enfin, c'est pas grave. Moi, je crois que démultiplier les initiatives à ce moment-là sur vos territoires, je trouve que prenez des portes ouvertes, ce que vous voulez, mais c'est important. Donc, trois exemples qui organisent les inégalités dans notre pays, ce ne sont pas les seuls, hein, et que vous connaissez bien, car justement, le quotidien des familles, c'est le quotidien des familles que vous accompagnez. Vous le connaissez beaucoup mieux que moi. En juin 2018, l'ANDAS a publié un manifeste pour une action publique sobre et de qualité. Donc, il est disponible sur le site. Cela a guidé l'action de notre association depuis 3 ans. Les travaux que nous avons conduits montrent que la sobriété est une notion intégrative, c'est-à-dire elle permet de rassembler les choses. Et juste pour le dire à chacun, la sobriété, c'est pas l'austérité, hein, donc il ne faut pas se tromper. Nous avons commencé par avoir sur cette notion une première approche sémantique et qui peut être très utile dans les choix à faire pour conduire les politiques du quotidien. L'antonyme de sobriété, c'est l'ébriété. Et à l'ANDAS, on trouve que l'état d'ébriété des politiques publiques, des dispositifs, des normes est conséquent en France. La démultiplication des dispositifs, leur empilement, crée des pertes de sens pour le travail social, et cela n'est pas récent. Malgré les discours au plus haut niveau sur la simplification, on peine à voir des progrès dans le domaine social. Il y a Gaspard Koenig qui vient même de créer un parti qui s'appelle Simple. J'adore ça. Il a fait meeting le 15 novembre autour du thème « Simplifions-nous la vie ». Après, il faut voir toujours l'ambiguïté. Il faut savoir si on s'y retrouve vraiment. Parce que parfois, pour simplifier vraiment la vie, il faut plus de services publics. Enfin, mais la sobriété relie d'abord à ce qui est essentiel. Hein, donc ça, c'est le premier terme de ce qui est essentiel. Aller à l'essentiel. Je peux tout le faire, y compris quand je rentre, pas par effraction dans une famille, mais quand je rentre, c'est qu'est-ce qui est essentiel. Et c'est certainement les personnes qui le savent qui est essentiel pour eux. C'est une question que chacun peut se poser pour son service, son métier ou pour la personne que l'on accompagne. Qu'est-ce qui est essentiel? La sobriété associe ensuite à la simplicité et à la lisibilité. Quand nous sommes dans un monde envahi par les sigles, les acronymes, on ne peut pas parler de lisibilité ou d'intelligibilité. Difficile au quotidien de comprendre tout cela. Les poissons rouges nous l'ont rappelé. Il est évident pour chacun qu'avec MGA, je suis moins bon que le ministre, hein, parce que en plus ça m'énerve, je n'ai pas envie de les dire, MGA, GBF et MAESF, qu'on se sent tout de suite protégé, en confiance, et qu'on a compris ce qui était essentiel. Votre Carrefour plaide régulièrement pour que vous soyez mieux connu et reconnu par les conseils départementaux, et je regrette vivement que ce ne soit pas suffisamment le cas. Comme l'a fait Benoît auprès de Mathieu Klein, vos conseils d'administration, pas que celui de le national, pourraient relayer cette demande et voter des motions demandant de nommer ces réponses du quotidien. Et moi, je vous proposerai un jeu concours proposant aux enfants et aux familles de les nommer, que ça pourrait être stimulant. Hein, enfin, des trucs un peu décalés quand même, ça pourrait être stimulant. Attends, qu'est-ce qu'il me fait là ? Ouais, il m'énerve parce que je ne l'ai pas caressé. Bon, voilà, je vais le retrouver. Donc, il ne faut pas oublier que lutter contre la complexité, contre le compliqué, hein, parce que la vie, elle est complexe, c'est pas trop gênant, mais contre le compliqué, je préfère lutter contre le compliqué, c'est lutter pour la dignité humaine et de façon concrète contre le non-recours au droit. Le non-recours au droit, il est conséquent aujourd'hui. C'est pour ça que je suis toujours réservé d'une approche de politique publique et pas, simplement par l'accès au droit. Dépouillé de quelques dispositifs, de quelques procédures, de quelques normes, vous devriez retrouver de l'agilité, une légèreté favorable à vos accompagnements quotidiens. Enfin, la sobriété relie aussi à la solidité des liens de l'investissement humain, à quelque chose de plus durable. La démultiplication des stratégies par le gouvernement donne l'impression que tout s'arrête en 2022. Ouais, non, c'est pas vrai, la vie continue après 2022. Donc la sobriété nous relie à l'essentiel, à la simplicité et l'accessibilité, à l'agilité et à la solidité. Donc solidité dans le sens de ce qui est durable. C'est en soi tout un programme pour la vie quotidienne des enfants. Ce manifeste pour une action publique sobre et de qualité propose 28 principes organisés autour de 3 axes. Je vous les redirai éventuellement. Donc, c'est peut-être le premier point. La sobriété et la qualité d'un quotidien, pensée comme stratégique dans les politiques publiques, me semble être essentielle. C'est-à-dire qu'il faut faire remonter les niveaux logiques. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un outil, le quotidien, hein, c'est la vie des gens. Et il faut, quand on construit des politiques publiques, il faut le faire remonter à un niveau logique très fortement stratégique dans une forme de vision du monde qu'on en a. Donc, et non pas simplement la couleur de la peinture du bureau, même si c'est très important, la couleur de peinture du bureau. Donc, deuxième point, la crise sanitaire n'en finit pas, et un colloque sur le quotidien ne peut y échapper. Hein, donc, on en a déjà un peu parlé. La crise sanitaire fatigue les corps et les esprits. Elle a montré l'importance des services et des métiers nécessaires à ce que puisse s'exercer la vie quotidienne. Important des gens qui s'occupent de nos poubelles, de nos déchets, de nos livraisons, de la caissière est remontée, elle était descendue tellement bas qu'elle est remontée en haut de l'édifice. Nous venons de traverser donc une séquence inédite en ce début de 21e siècle. La sortie progressive est toujours attendue de la crise sanitaire et le moment de constater, d'analyser nos faiblesses, nos ébriétés, non essentiel et de tenter de donner des inflexions, les inflexions salutaires pour le devenir de la planète. Hein, important que le secteur social pense aussi la planète. Si on est solidaire, il faut l'être plein de niveaux. Pour les êtres vivants qui la peuplent et au plus près de nos existences et de nos environnements familiers. Cette crise renvoie chacun à sa responsabilité d'agir là où elle se trouve, pour lui-même, pour elle-même, pour les autres et surtout pour les générations futures. En juillet 2020, dans ce contexte inédit, l'ANDAS a produit une contribution. En fait, on l'appelait entre nous le Coro Manifeste. Son vrai titre sérieux, c'est conjuguer favorablement la singularité des territoires et le principe d'égalité dans l'accès aux biens fondamentaux et au savoir. Après le Covid-19, l'ANDAS propose la méthode 3C et à cette occasion-là, on proposait une méthode. Donc, je vais dire deux mots un peu. Mais soyons assurés que la crise ne répare rien. Elle se développe et prospère dans un environnement fait d'interactions positives et négatives, de fluidité et de tension. Elle se nourrit autant des collaborations favorables, vous en connaissez certaines, vous connaissez ça très bien, qui en atténuent les effets et les rend plus supportables, car plus maîtrisés, que des dysfonctionnements chronophages, énergivores, faits de rupture et de rugosité. Et qui l'amplifie en la rendant plus incertaine, moins contrôlable et sans doute moins acceptable. On l'a vu, hein, donc, quand les coopérations elles fonctionnaient sur les territoires, ça a été moins difficile que quand elles étaient dysfonctionnantes. ne pas s'attaquer au problème de notre efficience collective après deux crises, donc celle financière et la sanitaire, aussi majeures que différentes, mais dont le point commun, il y a toujours le même point commun, c'est de frapper avec un discernement exemplaire les populations les plus vulnérables ou les plus discréditées, si on reprend un autre terme, serait manquer à notre responsabilité. Il faut redonner une place fondamentale à la proximité, au vivre ensemble, à l'entraide, à la confiance a priori, y compris dans la confiance dans les familles, dans une approche différenciée des territoires, des femmes et des hommes qui y habitent. Ce qui pourrait guider les propositions de réponse aux attentes concernant la vie quotidienne de nos citoyens, c'est l'approche des 3 C. Donc, on pourra y revenir si ça vous dit. Le C de convergence, c'est faire converger les politiques publiques. Particulièrement la convergence avec la transition écologique, il est possible de verdir les politiques de solidarité et de santé. Le C de coopération, j'aime pas le C de coordination. Ça fait des siècles qu'on nous parle de coordination et c'est pas efficace. Il en faut un peu, mais c'est pas efficace. De coopération et de nous devons prendre le risque de coopération, parce que Richard Sennett, le sociologue, parle du risque de prendre le risque des coopérations. Il a fait de très beaux livres là, sur ce sujet. De coopération renforcée des différentes parties prenantes pour avoir des approches plus sobres et écologiques du service rendu aux personnes. Et le C de citoyenneté, c'est pour ça qu'on est là, devant être incarné à tous les âges de la vie et particulièrement à la fin de la vie. Donc, à l'occasion de cette contribution, l'ANDAS a fait 8 propositions. Je ne vais pas toutes vous les reprendre. Donc, la source est toujours notre manifeste de 2018. Et je vais essayer de vous en prendre 2. Donc, voilà. Donc, sans rentrer dans le détail, je voudrais juste en signaler 2. Il y en a une qui est de proposition, c'est requalifier les médias de l'aide et de l'accompagnement des personnes vulnérables, notamment à leur domicile. La crise a mis en évidence, donc on l'a dit plusieurs fois pendant ce forum, l'intérêt de ces métiers, occupés en grande majorité par des femmes bénéficiant de ressources, pour certaines, les plaçant à la limite de la précarité. On parle notamment des aides à domicile, ça c'est quelque chose, c'est essentiel. L'avenant 43 ne résout pas tout. La reconnaissance et la revalorisation des métiers, si elle a été conséquente pour les métiers de la santé et de façon plus récente pour les métiers des services d'aide à domicile et accompagnement à domicile, a une nouvelle fois péché de l'effet de silo et d'une approche trop atomisée qui dégage chez les professionnels beaucoup de colère, en fait. C'est le fait d'avoir pris les machins par petits bouts. C'est qu'au départ, il n'y avait que les médecins de la crise qui parlaient, que les mecs d'abord. Puis on a mis quelques femmes. On n'a jamais dépassé le stade des infirmières pour prendre la parole. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens, des brancardiers, puis d'autres gens. Et en fait, on a pris les métiers comme ça, par petits bouts. Il y a beaucoup d'argent. L'accord de revalorisation, il est conséquent. C'est pas rien. Mais ça pose un problème. Donc, voilà. Donc on parcellise toujours, on atomise le système en le prenant par petits bouts. Le rapport demandé à Denis Pivetot autour du, je le résume, c'est du sens du travail social, parce que je pense que c'est dans ce sens-là qu'il va le faire, et il prendra aussi soin de, dans l'histoire. J'aurais refait quelques SMS hier soir au restaurant. Constituer une opportunité d'autant plus qu'il faut prendre soin de l'histoire, non pas pour y rester figé, mais pour pouvoir construire l'avenir, et surtout pour éviter de toujours tout recommencer. Toujours tout recommencer. On adore ça en France, prendre toujours recommencer. Donc voilà, Bernard Véléry nous a rappelé que le rapport Bourguignon n'avait pas été complètement exploité. Il a quand même produit des choses. Les états généraux, ils étaient mal partis, mais on a quand même bien bossé. Je suis très présent du niveau de... je trouve que le rapport sur le travail social, la politique qui a été proposée par le Premier ministre à l'époque, je trouve que il y a du contenu, il y a des choses qui avancent tout doucement. Il y a des rapports auxquels je suis sert, mais ils sont tous accessibles, les rapports sur le site du ministère. Ça vaut la peine d'aller les revoir de temps en temps. Moi, j'ai porté le rapport sur le développement social, le travail social, au nom de Michel Dagbert, qui était mon président de département à l'époque. Donc, j'en étais co-rapporteur avec Cyprien Avenel. On a quand même animé 30 organisations qui représentaient tout le champ et tout le spectre. Et en fait, on a travaillé la question du sens. Et donc, bon, Denis Piveteau l'a relu. Donc, c'est bien, il y aura du matériau là-dedans. Parce que le point, c'est quelle histoire à raconter pour donner envie de s'investir dans ces métiers du lien et de la vie quotidienne. Parce que c'est des métiers du lien et de la vie quotidienne. C'est pour ça qu'il faut considérer que c'est stratégique, que ces métiers sont stratégiques. Quelle reconnaissance ? La reconnaissance, c'est de l'argent, des parcours et de la formation. Moi, je reste un partisan d'une discussion autour d'une obligation de formation continue. Je ne pense pas qu'on puisse s'occuper des gens si on ne part pas en formation tous les ans. Il y a mille contradictions sur le sujet de la part des employeurs. Il faut l'accompagner d'une rénovation des modes d'organisation et de gestion, voire de management, et on peut se référencer aux expériences de travail sur les équipes autonomes aujourd'hui qui se passent, notamment dans l'aide à domicile. Et je trouve que c'est intéressant. On a quand même empilé des hiérarchies. Moi, quand j'étais directeur de l'enfance, j'ai recruté le premier chef de service territorial. Aujourd'hui, il y a des tonnes de chefs de service territoriaux. Tu te dis, ça fait quoi ? Enfin, je veux dire. Non, mais je suis très pro le cadre parce que les cadres sont dans les intermédiaires et c'est eux qui souffrent le plus dans le système. Hein. Faut pas se tromper. Elle est déléguée, vous ne vous trompez pas. C'est quand même vos cadres qui souffrent le plus. Voilà. Voilà. Ces terrains d'expérimentation de nouveaux modèles d'organisation, d'implication, voire de citoyenneté dans le cadre du travail pourraient inspirer de nouvelles formes de gestion adaptées aux métiers de l'aide et de la relation. Et je pense que pour ça, il faut aller prendre il faut aller chercher dans les sciences sociales. Je crois quand même que la psychodynamique du travail de deux jours ou la clinique de l'activité de Clos, enfin, qu'est-ce que ce soit, les associations qui sont comme Penser le travail, etc. Il faut... c'est pas simplement de travailler la qualité de vie au travail, c'est aussi de travailler la qualité du travail et le fait de penser le travail. Hein, je trouve qu'une obligation, les managements ont l'obligation de donner la possibilité à élaborer de la pensée, et ça c'est difficile parce que les normes et procédures nous empêchent un peu dans cette manière. Mais comme vous savez que vous avez le pouvoir d'agir, c'est bon. Le deuxième thème qui est la fin auquel je tiens beaucoup, c'est l'alimentation. L'alimentation, pensez, parce que c'est là où les discriminations les plus fortes et les inégalités se nouent. L'alimentation, pensez comme un grand projet national permettant de réduire les inégalités de santé et les inégalités sociales. Le coronavirus a repositionné dans l'opinion la question de la santé comme enjeu premier de la société et dans une moindre mesure, pourtant aussi importante, celle des solidarités institutionnelles et de proximité comme atout majeur pour faire face aux vulnérabilités sociales et aux inégalités de toutes sortes. C'est grâce à vous que l'hôpital ne s'est pas cassé la figure. Hein, faut pas tromper, c'est pas grâce aux médecins, c'est grâce à vous. C'est grâce au champ social et à son investissement. La crise a rappelé l'importance stratégique de l'alimentation et de la souveraineté alimentaire. Les risques associés aux formes les plus graves du coronavirus sont reliés aux populations les plus vulnérables et à une alimentation souvent inadaptée. Les phénomènes de surpoids, d'obésité ou de diabète font apparaître des inégalités de santé connues depuis de nombreuses années. La qualité de nos aliments conditionne notre état de santé. Notre environnement naturel équilibré depuis la nuit des temps subit depuis un siècle une pollution chimique et radioactive dont nous avons pris conscience tardivement. Or, l'alimentation dite moderne contient de plus en plus de substances chimiques indésirables pour la santé, le plus souvent à l'insu du consommateur. La crise a montré l'importance des circuits courts et d'un véritable service public de l'alimentation de proximité. La désorganisation temporaire des réseaux d'alimentation solidaire a montré leur relative fragilité, d'autant que leur sollicitation a connu une augmentation et continue de connaître une augmentation exponentielle et un renforcement considérable de la dépense en alimentation chez les familles populaires. Et en cela, vous en êtes en première ligne le premier poste d'observation. Pour bénéficier d'une alimentation de haute qualité à un prix accessible, développer la souveraineté alimentaire constitue un enjeu éminemment stratégique pour la réduction des inégalités de revenus ou de santé. De très grandes entreprises agroalimentaires ou de distribution en ont fait le cœur de l'évolution de leur modèle entrepreneurial et de leur mission. Vous pouvez essayer de passer une convention, le CNDPF avec Danone, qui est devenu une entreprise à mission, avant de foutre dehors son PDG, mais c'était une entreprise à mission, mais même Carrefour en a fait un enjeu stratégique. Donc je pense que vous allez pouvoir aller chercher des sous pour développer des actions. Parce que je pense aussi, fondamentalement, on n'arrivera pas à faire des choses sur la nomination sans les entreprises. Donc ça pourrait devenir un grand projet national, l'alimentation, permettant de réduire... Il y a des travaux sur le sujet, donc il n'y a pas du rien. De réduire les inégalités de santé et sociale, un projet transversal, c'est ça qui m'intéresse essentiellement, qui rassemble les différents mondes, pas que les mondes sociaux, mais tous les mondes qui composent notre pays, qui trop souvent s'opposent. Un projet qui permet une convergence des priorités écologiques, culturelles, économiques et sociales. Des priorités qu'il convient de mettre en synergie pour réussir avec pour la méthode de la 3C, 3C qu'on propose, car seul, il n'est pas possible de réussir. Voilà, donc il y a des initiatives dans les territoires. Le GERS a fait un joli projet autour de ces sujets, mais ce n'est pas le seul. Comment les services qui agissent essentiellement sur des décisions judiciaires autour de situations individuelles s'en emparent et peuvent s'en emparer. Je suppose que vous partagerez et vous partagez déjà vos initiatives en matière. C'est-à-dire c'est comment on est capable, à de l'individuel, à rajouter du collectif, et si on veut avancer sur le travail avec les pairs et les réseaux, etc. À la sobriété, donc, pour conclure, et à la qualité d'un quotidien pensé comme stratégique dans les politiques publiques, s'ajoute une méthode qu'on propose, qui renforce les coopérations, les convergences, et dont la finalité est la citoyenneté tout au long de la vie. Pour cela, donc, il y a encore deux C qu'on peut rajouter, parce que ça fait une méthode à 5 C. Il faut de la confiance, et surtout un peu de courage, et notamment il faut du courage dans le management, les politiques, les hauts fonctionnaires, enfin, donc il faut du courage. Il y a encore peut-être des progrès à faire. Donc je vous remercie de la qualité de votre écoute, qui est toujours grande au Forum.